juste quelques compléments sur ces passages que nous avons lus. Un premier point, chapitre 4, verset 5, « Alors le diable le transporte dans la ville sainte. » Au verset 8, « Le diable transporte encore sur une fort haute montagne. » Nous avons l'habitude de ces scènes de la tentation du Seigneur, mais on est, je dirais, stupéfait de penser à cette puissance du diable, quelque chose de presque inimaginable, du diable qui est capable de transporter le Seigneur lui-même, homme, de le transporter d'un coup sur le faîte du temple, tout sommet, tout en haut, de transporter d'un coup sur une forte haute montagne, c'est une puissance inimaginable. Alors, on dirait, mais est-ce qu'il faut avoir peur? Alors, c'est un des aspects remarquables de cette scène, ce passage, où il n'y a pas de quoi avoir peur, malgré toute cette puissance extraordinaire du diable, permise par Dieu, mais au fond permise par Dieu, mais il en ressort quelque chose de plus excellent. Le diable le laisse, les anges le servent, et puis le Seigneur commence son ministère. L'autre aspect, c'est effectivement que cette scène de la tentation intervient avant le commencement de son ministère. Il faut, pour que le ministère s'exécute, qu'il soit fructueux, il fallait qu'il y ait toutes ces tentations. Le Seigneur n'en avait pas besoin d'être formé quant à lui-même. Nous avons besoin d'être formés, mais que nous puissions néanmoins apprendre les leçons du Seigneur. Alors l'autre aspect qui est remarquable dans ces scènes de la tentation du Seigneur, c'est cette réponse par le Deutéronome. Trois fois, c'est la réponse, trois fois le Deutéronome. Alors pourquoi le Deutéronome? Surtout que déjà là, au niveau de tout l'Ancien Testament était déjà écrit, toutes les démonstrations qu'on pouvait faire quant à l'état de l'homme et à l'action de Satan, tout avait été déjà démontré, dévoilé, et puis revient simplement au Deutéronome. Alors on rappelle que Deutéronome, c'est ce que Moïse a prononcé dans les plaines du Jourdain, pour autant je me rappelle, juste avant d'entrer dans le pays de Canaan. Toute la traversée du désert était là. Et puis il y avait cette parole qui a été redonnée. Bon, Deutéronome, c'est deuxième loi, mais c'est pas, en réalité, c'est pas une répétition de ce qui avait été dit. Alors, je voudrais simplement souligner quelques aspects de ce que donne le Deutéronome. Disons que c'est un livre qui, d'une part, un peu long, d'autre part, qui dit énormément de choses, qui donne énormément de commandements. Et puis, on rappelle que, bon, il y a un peu un tournant dans le livre de Deutéronome au chapitre 12 où il rappelle, où il indique qu'il faudra chercher le lieu où habite son nom. Mais avant d'arriver à cette question cruciale du lieu d'habitation, il y a des rappels de ce que Dieu a fait. Et ce sont des rappels qui, effectivement, sont fort importants pour nous. Alors, je rappellerai seulement quelques versets forcément incomplets, non seulement à cause de l'heure, mais à cause de l'étendue du sujet. On a dans les chapitres 1 à 3 du Deutéronome, on leur rappelle des circonstances historiques par lesquelles ils ont passé. Deutéronome 4. Ça commence par « Maintenant, Israël, écoute les statuts et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer. Dieu donne l'importance de sa parole. » Et il y a ces versets qui sont assez remarquables. Deutéronome 4, verset 6, ce sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront tous ces statuts et qui diront, quel peuple sage et intelligent que cette grande nation. Quelle est la grande nation qui est Dieu près d'elle, comme l'Éternel notre Dieu est près de nous, dans tout ce pourquoi nous l'invoquons. Quelle est la grande nation qui ait des statuts, des ordonnances, justes comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous. Je ne rentre pas dans tous les autres détails, mais soulignons ce privilège non seulement unique mais extraordinaire d'avoir la parole de Dieu qui nous a été donnée, qui donne sagesse et intelligence. Alors effectivement on comprend d'autant plus pourquoi le Seigneur n'a répondu que par la parole et combien c'est effectivement pour nous d'une importance. Mais ce n'est pas seulement le côté de l'importance que je voulais souligner, mais le côté du privilège extraordinaire d'avoir cette parole qui nous instruit, qui nous guide. Dans le même chapitre, mais je ne peux pas lire évidemment tout le chapitre de l'un grand intérêt. C'est dans le verset 32. Enquière-toi donc des premiers jours qui ont été avant toi, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, et d'un bout des cieux jusqu'à l'autre bout des cieux. Si jamais il n'est rien arrivé comme cette grande chose, et s'il a été rien entendu de semblable, est-ce qu'un peuple a entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme toi tu l'as entendu, et est demeuré en vie? Ou Dieu a-t-il essayé de venir prendre pour lui une nation, du milieu d'une nation, par des épreuves, par des signes, par des prodiges, par la guerre, à main forte, à bras étendus? Alors, il y avait dans ces exclamations de ces versets, il y a bien une particularité liée à ce que Dieu s'était manifesté en Sinaï de manière terrible. Disons, il y a le feu, la voix, et c'est d'autant plus remarquable que cette question que dans Hébreux 12, l'auteur de l'Épître dit, mais vous, vous n'êtes pas venu à la montagne qui est de feu, vous êtes venu à Sion, à toutes les détails qui sont donnés sont toutes les manifestations en grâce de Dieu en faveur des siens. On voit donc, alors que c'était donc déjà un privilège extraordinaire d'avoir reçu cette parole et de la manière dont elle avait été reçue, voilà que pour nous c'est encore un privilège encore plus excellent. Chapitre 6 du Deutéronome, alors c'est le chapitre qu'on connaît peut-être bien mieux, c'est celui que, alors il y a Deutéronome 6 verset 5, tu aimes, verset basique, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, verset 7, tu les inculqueras à tes fils. Et inculquer, c'est pas juste en toucher deux mots de temps en temps. Tu les inculqueras à tes fils. Inculquer, pour savoir si l'inculcation a eu lieu, il faut que le fils en question ait retenu. Et c'est là où on voit s'il a retenu. Et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Autrement dit, toute la journée. On voit et on dira, mais on ne peut pas parler de la parole toute la journée, mais... Quand on a vu l'intérêt de la parole, quand on a vu sa valeur comme guide, c'est pas quelque chose de pesant d'en être occupé sans arrêt. Je crois que les passages à peu près pareils sont répétés pour autant que je me rappelle au chapitre 11. Alors ça, c'était vis-à-vis des enfants, et puis alors, quant à soi-même, il y avait ce commandement du verset 9, du verset 8 déjà, à propos donc des commandements de l'Éternel, tu les liras comme un fronteau entre les yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Alors c'est des pratiques que les juifs font matériellement. Ils mettent sur les linteaux de la porte un petit tube où il y a les commandements de la loi dedans, et puis ils ont les phylactères, les téphilim, ou ces petites boîtes qui se mettent effectivement sur le front, sur les mains. Ils traduisent ça, mais... La pensée de l'écriture n'est pas un rite extérieur, matériel. La pensée de l'écriture, c'est évidemment une inscription profonde dans le cœur, permise par l'Esprit de Dieu, selon Jérémie. Alors, dans Deutéronome, au chapitre 7, il y a l'instruction de quand l'Éternel ton Dieu t'aura introduit dans le pays, c'est un peu le propre du Deutéronome, les instructions pour quand on habitera dans le pays. Et il est dit, et qu'il aura chassé de devant toi les nations, etc. Verset 2, tu les détruiras. Et tu les détruiras entièrement comme un anathème. Tu ne traiteras point alliance avec elles, tu ne leur feras pas grâce. Alors tu ne t'allieras pas par mariage. Mais, et puis verset 5, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues. abattraient leurs achères. Et c'est un des instructions qui ne sont pas étonnantes, parce qu'on les comprend de ce que Dieu veut effacer l'idolâtrie. Ces versets prennent une coloration étonnante dans le jour actuel où on voit par le, si certains connaissent cela, le wokisme et d'autres, où on veut effacer toute l'histoire du passé, et en particulier l'histoire du christianisme, tout ce qui est de Dieu. Voilà, c'est l'action de l'Antichrist qui veut effacer tout ce qui est de Christ. Mais c'était justement, il veut imiter les instructions de Dieu qui voulait effacer l'idolâtrie. On voit qu'il n'y a pas de mi-chemin, de demi-mesure faisable. Et alors, devant une destruction pareille, il est précisé, chapitre 7, verset 7, « Mais ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que l'Éternel s'est attaché à vous. Vous étiez le plus petit de tous les peuples. Mais, chapitre 7, verset 8, « Mais parce que l'Éternel vous a aimé et parce qu'il a gardé le serment qu'il a juré à vos pères. » Quel est ce motif ? Alors on dira, mais qu'est-ce que vous représentez ? Vous êtes des rien du tout. Et vous prétendez être quelque chose. Mais bien sûr qu'on est des rien du tout. Et la parole le disait même pour Israël, vous êtes le plus petit des peuples. Alors pourquoi il y a l'importance de tout faire comme Dieu a dit ? Mais c'est parce que l'Éternel vous a aimé. C'est tout vient de lui et on lui rend quelque chose de son amour. Je passe, le chapitre 8 est un chapitre peut-être plus connu, extrêmement important dans la mesure où il fait connaître, il rappelle les leçons du désert, il y avait deux leçons du désert. C'est la première, connaître, t'humilier, connaître et t'éprouver. C'est chapitre 8, verset 2. T'humilier et t'éprouver, connaître ce qui est dans ton cœur. Et puis connaître, c'est là où il est dit que, justement, comme le Seigneur le dit dans la tentation, chapitre 8, verset 3, te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, la suffisance des ressources de l'Éternel, de Dieu, du Seigneur en faveur de son peuple. Et puis, il y a aussi ce verset 16, dans les buts de l'Éternel, il t'a fait manger la manne dans le désert, la manne que tes pères n'ont pas connue, afin de t'humilier, afin de t'éprouver, pour te faire du bien à la fin. Et que tu ne dises pas dans ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces richesses, mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, que c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses. Alors, c'est quelle leçon, je répète, tous ces chapitres du Deutéronome méritent d'être lus soigneusement, attentivement, lentement, dans le détail, d'être médités avec prière. Mais retenons l'importance de ces quelques bribes que j'évoque. C'est connaître, t'éprouver pour te faire du bien à la fin. Non pas des épreuves que Dieu est dur, mauvais contre nous, mais il a un but de bien et il a un but que tu ne dises pas ma puissance et la force de ma main, moi qui sais richesse, mais se souvenir que c'est l'Éternel qui donne. Et puis, il y a une bribe aussi qui est importante dans le chapitre 9, c'est... le début du chapitre 9 redit que les nations vont être dépossédées, y compris les fils d'Anak. Les fils d'Anak, c'était des géants. Alors on dira, il n'y a plus de géants aujourd'hui, c'est vrai. Mais il y a une puissance du diable qui subsiste, et la puissance capable de transporter le Seigneur d'un coup sur une haute montagne au faîte du temple, et encore bien pire que toutes ces histoires des géants, mais Dieu les a permises. Et puis, c'est pourquoi un des buts de l'Éternel, chapitre 9, verset 4, « Ne parle pas en ton cœur quand l'Éternel, ton Dieu, les aura chassés devant toi, disant « C'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait entrer pour posséder le pays. Ce n'est pas à cause de ta justice, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les dépossède devant toi. Ce n'est pas à cause de ta justice, ni à cause de la droiture de ton cœur que tu entres pour posséder le pays. » On voit en fait derrière tout cela, on voit le propos de grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que nous sommes, nos vertus, notre justice, mais c'est une pure grâce de Dieu, de tout ce qui nous est accordé. Mais je n'ai peut-être pas assez insisté dans ces versets, enfin c'est un peu quand même au chapitre 4, nous nous souvenons de ce cantique des chants de victoire contre les bienfaits de Dieu. Et c'est un des aspects de ces chapitres, du chapitre 4 et des autres, compter les bienfaits de Dieu. Tout ce qu'il a fait, non pas parce que tu es juste, non pas parce que tu es un grand peuple. Tu es un grand peuple, mais bien sûr tu es un grand peuple à cause des privilèges extraordinaires qu'il t'a donnés. Mais tout ça, c'est tout par grâce.